Éclairage.
Une émission de la rédaction de Canal Académie. Édouard Rosset.
Bonjour à toutes et à tous. S'il est un concept dont on parle beaucoup depuis quelques mois, s'il est un mot à la mode tant dans les discours politiques que dans les stratégies économiques, c'est bien le mot innovation. Réalité économique pour toute entreprise qui veut développer son activité, avoir une longueur d'avance sur la concurrence, et puis pour toute société qui veut aller de l'avant. Et si ce mot innovation recouvrait aussi une notion philosophique ou au moins sociologico-économique. Un livre donne des clés pour comprendre et des éléments de réflexion. Ce livre s'intitule « Innovation, désordre et progrès ». Il est publié chez Economica et on le doit à Pierre Tabatoni. Bonjour Pierre Tabatoni.
Bonjour.
Merci d'être notre invité dans l'émission Éclairage sur Canal Académie aujourd'hui. Vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques, professeur agrégé de sciences économiques et de gestion. Vous avez participé à la fondation de nombreuses institutions et notamment à la direction de divers organismes. Je ne citerai que l'Institut d'administration des entreprises d'Aix-Marseille ou encore le centre universitaire de l'Université Paris-Dauphine. Alors à qui s'adresse cet ouvrage, donc Innovation, désordre et progrès chez Economica? Tout d'abord, est-ce un livre de philosophie, monsieur Tabatoni, ou tout simplement vous avez voulu faire un livre d'économie et de gestion, d'organisation?
Non, ce n'est pas un livre de philosophie, parce que ça n'est pas ma matière, mais comme vous l'avez dit, les problèmes de l'innovation sont tellement au centre des discussions dans notre société actuelle, des pratiques et des discussions dans notre société actuelle, que j'ai voulu faire un livre qui parle du phénomène d'innovation dans la société. Et par conséquent, bien que la partie économique et organisation soit dominante, c'est d'ailleurs mon métier, j'ai voulu que ce livre s'adresse à des lecteurs qui aient d'autres intérêts que de la pure économie ou de la pure gestion. Et l'image même qui est sur la couverture du livre est faite pour montrer l'interaction entre l'innovation et le reste de la société.
Qu'est-ce que cette image? Vous pouvez nous la décrire?
Oui, cette image est celle de Prométhée et d'Épiméthée, qui est tirée d'un vase grec. C'est la reproduction qui a été faite par un artiste de l'image sur un vase grec. Alors Prométhée, c'est le symbole de... C'est le fameux titan qui a donné le feu aux hommes et qui, par conséquent, est le symbole de l'innovation. Et il m'a semblé que on se contentait trop souvent de parler de Prométhée, que le problème, c'est la relation entre Prométhée et son frère. Son frère, Prométhée, c'est pro, en avant. Celui qui fait de la prospective, qui fait bouger les choses. Épiméthée, c'est le vieux grec à côté. Et c'était son frère, qui était aussi un titan, mais c'était son frère qui était beaucoup plus prudent, beaucoup moins imaginatif, beaucoup moins créatif. Et tout le problème de l'innovation dans la société moderne, ce n'est pas un problème de pure technologie, elle y a sa place, mais ce n'est pas de la pure technologie, c'est la relation entre l'innovation et la manière dont la société réagit à l'innovation. Et c'est l'objet du livre.
Oui, alors justement, vous dites, Pierre Tabatoni, et vous montrez en quoi l'innovation est devenue un mythe. Vous utilisez le terme, un mythe dans nos sociétés, une idée force. On a vu la définition de l'innovation. En quoi cette innovation est un mythe?
Elle est un mythe parce que, vous l'avez dit vous-même en ouvrant ce débat, aujourd'hui, l'opinion publique en général, les milieux politiques, tous les responsables, considèrent que c'est l'innovation qui est à la base de toutes leurs opérations, de toutes leurs activités. Et on pense que le sort même de la société dépend de sa capacité d'innover. Elle prend donc l'allure d'une idée force, c'est-à-dire d'un mythe. Un mythe, on ne sait jamais trop comment il faut l'interpréter, ni quels seront ses résultats, mais il donne de l'énergie et il provoque des débats.
Alors malgré tout, l'innovation est un processus, et là je vous cite de nouveau Pierre Tabatoni, un processus qui a son sens et son rendement à travers le désordre et le progrès. Alors ça, c'est une autre idée force à travers votre ouvrage. En quoi l'innovation est source de désordre?
L'innovation, presque par définition, elle conteste un ordre, puisqu'elle veut transformer une situation existante. Et donc, elle est un désordre. Mais la manière dont elle est un désordre dépend beaucoup des critères qu'on utilise pour définir l'ordre, et j'en donne plusieurs exemples. Ce qui est important de bien comprendre, si l'on se place là du point de vue de l'économie et de l'économie de compétition, de l'économie de marché dans laquelle nous fonctionnons. L'innovation a pour fonction de déplacer certaines formes d'organisation économique et de les remplacer par d'autres. Toute innovation est un désastre constructif, c'est la fameuse expression qui est maintenant bien connue partout, utilisée par l'économiste Joseph Schumpeter. C'est un désordre constructif, parce que sans désordre, il n'y a pas de nouveauté, et c'est un désordre qui déplace des activités et des ressources d'un secteur à un autre, qui supprime certaines entreprises et qui en fait naître d'autres.
Sans pour autant faire tabula rasa. L'innovation se base déjà sur l'existant.
L'innovation fait très rarement tabula rasa. Il faut vraiment qu'il y ait une idée absolument majeure, une idée centrale. Je pense par exemple en mathématiques à Einstein, qui a complètement transformé toute la pratique de la physique. Mais généralement, l'innovation est une idée nouvelle, mais c'est une idée qui se nourrit de tout un ensemble d'idées précédentes et qui apporte simplement une transformation à un moment donné qui crée une novation, comme diraient les juristes. Et l'innovation est toujours le fait de personnages qui sont créatifs, c'est-à-dire qui sont capables d'imaginer et de comprendre des idées nouvelles et comment les faire, mais les personnages créatifs ne sont jamais isolés. L'innovation est un acte individuel, puisqu'elle est créative, elle est toujours un acte collectif, et c'est la raison pour laquelle je veux parler du sens de l'innovation.
Est-ce à dire, Pierre Tabatoni, que l'innovateur est un profiteur? J'entends par là quelqu'un qui a une bonne idée et qui attend la faille, quelque part, dans l'ordre établi, vous le disiez tout à l'heure, dans la société, pour s'engouffrer dans cette faille et proposer quelque chose. C'est un rebelle, quelque part, l'innovateur, non?
L'innovateur, vous avez tout à fait raison, est un rebelle. C'est sa mission dans la société. Il se glisse dans des interstices, c'est exact, mais ces interstices, c'est lui-même qui les crée par son innovation. Sinon, on ne les verrait pas. Et il transforme les activités dans lesquelles l'innovation s'exerce, parce que c'est sa mission. Alors, est-il pour autant un personnage dont il faut se méfier? Très certainement, c'est d'ailleurs l'objet de la reproduction du vase grec. Épiméthée, c'est chacun de nous, c'est la société. Chacun de nous qui voulons à la fois profiter des choses nouvelles et qui avons peur des choses nouvelles. Et le dialogue entre Prométhée et Épiméthée est précisément au cœur même du processus d'innovation.
Alors c'est admirable parce qu'on le voit en vous entendant, Pierre Tabatoni, l'économie rejoint la philosophie ou la philosophie rejoint l'économie, et c'est tout le côté admirable de votre ouvrage qui se lit en plus, je le signale très très facilement, hein. Ce n'est ni un ouvrage dogmatique ni un ouvrage technique, il se lit très très facilement et on comprend bien cette relation entre philosophie et économie. C'est un point clé pour l'innovation, ça.
C'est un point absolument clé. Philosophie est peut-être un grand mot pour moi qui ne suis qu'un économiste, mais on ne peut absolument pas parler du rôle de l'innovation dans la société et de l'innovation en tant que phénomène de société si l'on ne pense pas aux effets qu'elle va créer dans l'évolution de la société. Et l'évolution de la société, généralement, est interprétée à travers des critères de progrès. Et par conséquent, les relations entre innovation et progrès sont des relations très fortes et qui entraînent toutes sortes de débats.
L'innovateur est-il rationnel ?
L'innovateur est un esprit créatif. C'est un esprit qui a des idées, qui est capable de voir ce qui est nouveau et qui a une forte volonté de le mettre en œuvre. Alors, il est rationnel en ce sens qu'il, autour de cette idée, il veut bâtir une réalité nouvelle. Et c'est une forme de rationalisation que d'avoir un critère très fort et de se rallier à cette raison. Mais néanmoins, à côté de sa capacité de raisonner et d'organiser, qui est essentielle, l'innovateur est très largement influencé par des dimensions affectives. C'est un homme de passion, c'est un homme de dialogue, de négociation. Et par conséquent, lorsqu'on s'engage dans des activités nouvelles avec la passion d'y arriver, qui met toujours en cause des attitudes de pouvoir, il est difficile d'ignorer que la rationalité, la capacité d'organisation et de raisonner est toujours insérée dans un complexe humain et social beaucoup plus riche où les passions jouent un rôle clé.
Alors l'innovation est-elle toujours synonyme de progrès? Là je plonge dans votre ouvrage, Pierre Tabatoni, Innovation, désordre et progrès aux éditions Economica, et je lis. Raisonnant plus généralement, Joseph Schumpeter distingue 5 types d'innovation. 1. La création de nouveaux produits. 2. L'introduction de nouvelles méthodes de production. 3. La création de nouvelles formes d'organisation industrielle. 4. Le développement de nouveaux marchés sur le plan géographique et économique. 5. Le développement de nouvelles ressources. Cette liste pourrait être réduite à 2 formes principales, dites-vous. D'une part, les innovations de produits marchés et d'autre part, des innovations de processus ou de procédés qui se traduisent par des hausses de productivité ou des baisses de coûts. Alors, j'en reviens à la question. Est-ce que innovation est toujours synonyme de progrès? Parce que le progrès, innover, c'est bien pour créer. Mais vous voyez très bien où je veux en venir, notamment les questions sociales. Quand on parle de réduction de coûts, certes, on avance, l'entreprise continue à vivre, mais parfois, il y a de la casse.
Oui, l'innovation comporte naturellement de la casse, puisqu'elle conteste un ordre et qu'elle veut établir une situation nouvelle par rapport à l'ordre existant. Quand il y a de la casse, il y a du retard par rapport au rythme de l'innovation. Et le problème important de notre société, c'est que les innovations s'accumulent, elles s'accélèrent, elles se diffusent plus rapidement. Autrement dit, la contestation devient de plus en plus rapide, de plus en plus forte et de plus en plus générale dans la société. Cela traduit nécessairement des retards d'ajustement, des difficultés d'ajustement ou des rejets purs et simples de telles formes d'innovation que l'on considère comme contraires, par exemple, à la morale ou à des règles politiques.
Taguieff le signale en parlant de l'homme bougiste. Le monde bouge toujours plus vite, toujours plus... Et ça peut être dangereux quelque part, non? Il faut être très vigilant.
Être vigilant me paraît nécessaire devant tout ce qui est innovant. Nous y reviendrons sûrement. Mais le bougisme, je ne crois pas que ce soit une expression qui corresponde bien à la nature des innovations techniques et économiques que nous constatons. Le bougisme, c'est plutôt du côté des consommateurs qui amène les entreprises à essayer de les satisfaire. Et les consommateurs sont des gens de plus en plus individualistes qui ont besoin de changer, dont toutes sortes de besoins se transforment très rapidement, surtout sous l'effet du progrès technique. Et par conséquent, ce n'est pas le bougisme qui décrit le phénomène d'innovation, c'est l'évolution culturelle de la société qui fait que les gens veulent bouger plus rapidement. Le fait de bouger leur crée des problèmes, ils se demandent où ils vont, et par conséquent, ils veulent surveiller la manière dont les processus d'innovation les conduisent.
Nous allons poursuivre notre réflexion autour de votre ouvrage, Pierre Tabatoni, « Innovation, désordre et progrès » aux éditions Economica, après une courte pause. Éclairage reçoit aujourd'hui Pierre Tabatoni, membre de l'Institut, en l'occurrence de l'Académie des sciences morales et politiques. Pierre Tabatoni qui publie chez Economica le livre intitulé « Innovation, désordre et progrès ». Alors nous avons vu la notion de désordre, monsieur Tabatoni, maintenant la notion de progrès. On va y revenir bien sûr à cette thématique tout au long de cette émission. Le progrès, Sur quelle notion vous insistez particulièrement? Quelle est la conception du progrès?
Je crois que le progrès économique est une notion relativement claire. Le progrès technologique et économique, puisque l'innovation consiste à partir d'idées nouvelles, généralement scientifiques et techniques, à mettre à la disposition des consommateurs, comme vous l'expliquiez en reprenant le texte de Schumpeter, à mettre à la disposition des consommateurs des produits, des services ou des modes de production ou des modes de consommation nouveaux. Donc le progrès économique est une notion qu'il est facile de constater et de mesurer, et il n'y a aucun doute que le progrès économique depuis que le monde existe, et surtout qui s'est accéléré depuis le XVIIIe siècle, a considérablement amélioré la condition des êtres humains. C'est en cela que le progrès économique est naturellement un progrès. Mais le problème est celui, comme on le disait tout à fait au début, de l'articulation, de l'insertion du progrès économique dans le progrès de la société dans son ensemble. Et c'est là où le progrès économique crée des risques, qui sont maintenant bien connus dans la société, les risques d'environnement, les risques climatiques, les risques de santé, les risques de désordre social, de déstructuration, les risques d'atteinte à la vie privée, etc. Il y a toutes sortes de risques qu'on appelle des externalités négatives que crée le progrès, et c'est la raison pour laquelle la société doit veiller à ce que ces risques n'entraînent pas des désordres sur le plan social et moral qui ne puissent pas être gérés.
Mais c'est de la régulation, ça, non ?
C'est de la régulation qui, enfin, si on prend le terme au sens technique, c'est de la régulation. Ça ne signifie pas nécessairement la réglementation. Quand on parle de régulation, ce peut être aussi bien des mécanismes d'autorégulation, c'est-à-dire que les gens qui innovent se rendent compte des risques que leurs pratiques comportent et ils sont conduits, pour des raisons peut-être dont nous parlerons plus tout à l'heure, ils sont conduits à essayer de réduire les risques qu'ils créent. J'ai plusieurs exemples que je peux vous donner là-dessus.
On peut les citer tout de suite, oui.
Eh bien, prenez par exemple l'obésité. L'obésité est certainement le résultat de techniques d'innovation dans le domaine alimentaire et dans le domaine de la distribution économique qui affectent toutes les sociétés, qui fait que d'un côté il y a des obèses et de l'autre côté il y a des pauvres et des misérables. Et c'est une situation que le capitalisme industriel et commercial moderne tente évidemment à développer. Mais depuis une dizaine d'années, la société réagit. Les médecins réagissent. Les politiques réagissent. Les États, les pouvoirs publics, constatant un véritable désordre, cherchent les moyens d'éviter que ce désordre ne se cumule. Mais au-delà même de l'intervention des États, les opinions publiques, les parents, les professeurs des écoles, les gens des médias montrent de plus en plus à la société qu'il s'agit d'un problème qui met en cause son avenir elle-même. Et ce que l'on constate, par exemple, aux États-Unis, dans ce problème de l'obésité, c'est que les grandes sociétés qui sont à la base de toute cette agroalimentaire moderne modifient progressivement leur stratégie pour essayer d'anticiper sur le désordre qu'elles créent et d'éviter que ce désordre n'entraîne des régulations plus rigoureuses, c'est-à-dire des interventions de l'État. Car lorsqu'il y a dans une société un problème qui est évident, une difficulté évidente, et où, quand l'on sait où l'on va, la régulation publique, la réglementation publique permet d'éviter que ça ne se dévoie.
Mais cela dit, on peut la dénoncer aussi comme frein au progrès, cette régulation. Il ne faut pas qu'elle aille trop loin.
L'excès de régulation, lorsque le problème est mal identifié, c'est-à-dire lorsqu'on ne sait pas trop ce que l'on fait, lorsqu'on a besoin de faire quelque chose, par exemple pour des raisons politiques, on a besoin de réagir parce que l'opinion publique est très inquiète. Mais on fait des réglementations qui risquent d'aller à l'encontre du progrès, de l'innovation, et qui se payent plus cher après.
Il est récent ce principe d'autorégulation, non ? Il y a eu ce grand développement, ce progrès, c'est parti un petit peu dans tous les sens. On a pollué, vous citiez tout à l'heure la pollution, et aujourd'hui on fait machine arrière tout en continuant d'avancer quand même, malgré tout.
Alors, est-ce que le principe d'autorégulation est récent ? Non. Le principe d'autorégulation est lié à la notion même de principe de responsabilité, qui est un principe moral et politique
de nos
sociétés.
Mais est-ce qu'on l'a toujours eu, Pierre Tabatoni ?
À l'époque où l'innovation n'était pas très importante, lorsque l'Église, par exemple, réglait les valeurs morales et politiques, il y avait des règles ecclésiastique, canonique, qui empêchait de faire quoi que ce soit. Enfin, quoi que ce soit qui puisse entraîner des désordres par rapport aux critères religieux. Mais je cite dans le livre un événement amusant, en tout cas intéressant. Il y avait à la fin du XIIIe siècle, à Béziers, un moine franciscain qui s'appelait Jean Olivier. Et Jean Olivier était un penseur. D'ailleurs, ça lui a coûté, il a eu beaucoup d'ennuis pour cela. C'était un penseur qui constatait que les gens qui développaient la ville de Béziers, qui jouaient un rôle important, qui pouvaient rendre les gens plus heureux, c'était les négociants, ce qu'on appellerait maintenant des entrepreneurs. Et il craignait que ces entrepreneurs ne perdent leur âme. C'était un religieux. Et par conséquent, il a écrit tout un livre, qui est un livre extraordinaire, qui est le premier traité du commerce que l'on connaisse dans la littérature, vers 1280, par là, dans lequel il expliquait, mais Dieu ne doit pas, Dieu doit considérer positivement tous les efforts que font ces hommes d'affaires pour la société, parce que, et c'est là l'idée économique tout à fait nouvelle, révolutionnaire, parce que ces hommes d'affaires prennent des risques, et celui qui prend des risques a droit au profit. L'Église ne peut pas condamner son profit.
Donc, vous voyez bien. Et que ensuite, il y aura la doctrine sociale de l'Église, d'ailleurs.
Après, il y aura la doctrine sociale de l'Église, toutes les doctrines socialistes, bref, toutes les pensées qui s'efforcent d'insérer un comportement individuel dans une société posent ce genre de problème. Le problème. Mais vous voyez bien quand même que l'autorégulation est liée à la notion d'exercice de la responsabilité. Et d'ailleurs, aujourd'hui même, l'un des thèmes qui est en train de devenir mythique lui aussi, les deux thèmes qui apparaissent comme dominants dans l'interprétation de l'évolution de nos sociétés sont l'un, ce qu'on appelle le principe de précaution, qui est une nouvelle manière de réagir au risque, et on pourra en parler. L'autre, le développement durable, qui est une sorte de contrainte morale, sociale, sur le plan de la connaissance également, il faudra qu'on en reparle, qui est posée notamment aux innovateurs, en leur disant que les innovateurs doivent contribuer à des résultats qui servent le développement durable de la société.
C'est-à-dire le développement futur sans compromettre les générations présentes.
Sans compromettre les générations actuelles. Et c'est tout ce courant de développement durable qui date d'une quinzaine d'années et qui est encore évoqué de manière souvent confuse, mais peu à peu, on voit concrètement ce qu'il peut signifier et on voit apparaître peu à peu dans notre société une contrainte générale que moi je considère être une contrainte de type moral et par conséquent politique
salutaire,
et sociale.
Salutaire.
Absolument salutaire.
Et qui ne freine pas l'innovation, qui ne freine pas le progrès.
Qui amène les innovateurs à s'interroger sur l'impact de ce qu'ils font par rapport à la société. Si la société est religieuse, elle a des impacts religieux et la doctrine sociale de l'Église, comme vous le savez depuis très longtemps, dit les points au-delà desquels on ne peut pas aller. Si on n'est pas dans le domaine religieux, si on est dans le domaine sociopolitique, et c'est le cas généralement du développement durable, à ce moment-là, les entreprises doivent se demander si ce qu'elles font est compatible avec le développement durable. Et c'est là où je reviens à l'autorégulation. Qu'est-ce que nous constatons dans les grandes multinationales? Vous parleriez par exemple avec l'un de nos confrères de l'Académie, Bertrand Collomb, qui est le président de la Société des Ciments. Le groupe Lafarge, qui est un des
leaders mondiaux de son secteur.
Qui est le numéro un, absolument, et qui a un souci très très poussé du développement durable, parce que sa société, ses activités peuvent avoir des effets très négatif sur le développement durable. Donc la totalité des activités, des innovations qui se font chez Lafarge sont examinées du point de vue de leur impact sur le développement durable. Et de plus en plus, on voit des grandes sociétés, internationales plus que nationales, qui se posent ce problème. Pourquoi ? Parce que l'opinion publique est maintenant saisie, parce qu'il y a dans l'organisation de la société toutes sortes d'organismes, pas seulement publics, pas seulement des établissements publics qui évaluent, mais l'opinion publique évalue à travers toutes sortes d'organismes sociaux et politiques qui révèlent, qui posent des questions sur l'impact de telle ou telle innovation. Et en posant ces questions, ils interrogent, comme on dit maintenant, l'entreprise. Et l'entreprise est forcée de considérer cette interrogation comme une contrainte stratégique.
Et il y a les agences.
Elle ne peut pas l'ignorer.
Il y a les agences de notation.
Alors, il y a toutes les agences de notation. Mais alors, ce que comprennent souvent mal.
Mais pas notation financière. Aujourd'hui, on parle de notation sociale et environnementale.
La notation sociale, bien sûr.
Il y a
sûr.
Vigeo, le célèbre groupe de Nicole Notat, l'ancienne secrétaire générale de la
Nicole
CFDT.
Notat, c'est ça. Mais il y a également des organismes qui essayent d'apprécier la valeur culturelle dans l'entreprise, les valeurs culturelles de l'entreprise. Enfin, la notion d'évaluation prend une forme de plus en plus générale. Et le problème, lorsqu'on parle d'évaluation, c'est qu'à un moment donné, il faut se référer à un critère d'ensemble. Les critères religieux étaient des critères d'ensemble, Nietzsche, Gueux. Au-delà des critères religieux, vous avez des critères sociopolitiques. Le critère sociopolitique qui est en train de se mettre en place est celui de développement durable, avec ses annexes instrumentaux, si je puis dire, tels que le principe de précaution. Alors on peut en parler si vous voulez.
C'est le progrès intelligent, en quelque sorte. Nous marquons une nouvelle pause, Pierre Tabatoni. Je rappelle le titre de votre ouvrage dont il est question dans l'émission Éclairage sur Canal Académie aujourd'hui. Innovation, désordre, progrès, c'est aux éditions Economica. À tout de suite. Parce qu'ils ont façonné l'histoire de nos civilisations, ils furent acteurs ou témoins de cette histoire, leurs travaux et ouvrages nous font traverser les siècles. Historiens, philosophes, économistes, juristes et sociologues s'expriment sur Canal Académie. Les membres de l'Académie des sciences morales et politiques racontent. Retrouvez-les dans Un jour dans l'histoire, une émission de la rédaction de Canal Académie.
On retrouve Édouard Rosset.
Avec Pierre Tabatoni, membre de l'Institut, en l'occurrence membre de l'Académie des sciences morales et politiques, professeur agrégé de sciences économiques et de gestion, il a participé à la fondation et la direction de nombreux organismes, dont l'Institut d'administration des entreprises d'Aix-Marseille ou encore le Centre universitaire de Paris-Dauphine. Je citerai également la Fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises et le Centre européen de recherche en management à Bruxelles. Pierre Tabatoni, qui publie aux éditions Economica, Innovation, désordre et progrès, c'est la dimension économique certes, mais aussi, allez, lâchons le mot, hein, un petit peu philosophique de ce terme et de cette conception. Alors Pierre Tabatoni, est-ce que innovation se fait uniquement sur le long terme ? L'innovation, c'est une réflexion, évidemment, après il y a l'application industrielle et commerciale.
Ah oui, mais attendez.
Mais est-ce que innovation signifie uniquement long terme ?
Vous avez dit après il y a l'application. Permettez-moi là d'être très catégorique. L'invention est une chose, ce sont des idées scientifiques et techniques. L'innovation, ce sont tous les processus qui font qu'on applique ces idées pour aboutir à des nouveaux produits, de nouvelles organisations, de nouveaux services. Autrement dit, si l'on ne va pas jusqu'au bout de l'innovation, c'est-à-dire aux besoins, aux gens auxquels elle s'adresse, les utilités qu'elle crée, le processus d'innovation est interrompu. Et c'est pourquoi l'innovation ne peut pas se considérer uniquement comme une activité de court terme, puisqu'elle ne peut que se développer de plus en plus dans le plus long terme. Alors, ce qui est important de comprendre également, c'est que dans notre société moderne, l'innovation, et ça on le dit plusieurs fois dans le livre et vous le trouvez partout maintenant, même dans les débats politiques, la base même de l'innovation, c'est l'information et la connaissance, et vous savez, c'est devenu un lieu commun. Nous parlons d'une société de connaissance. Alors, laissez-moi prendre un exemple. Au XIXe siècle, le capitalisme était une société essentiellement de capital. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Ça voulait dire que la ressource rare, c'était vraiment le capital. C'était les machines, les équipements. Et on l'a appelé capitalisme parce qu'il fallait satisfaire, en termes de rendement, ce qui apportait cette ressource rare qui est le capital. Aujourd'hui, bien sûr, le capital est une ressource générale. Elle est rare et il doit toujours être rémunéré. Mais le capital ne suffit pas. Et en particulier, comme nous sommes dans une société de connaissances, la ressource qui devient de plus en plus rare et qui ne peut être que partiellement acquise par le capital, c'est la ressource de la connaissance. Et la capacité d'utiliser les connaissances pour rendre des utilités qui ont du sens. C'est un problème sur lequel j'aimerais, à un moment donné, revenir.
Alors, il y a aussi, on parlait tout à l'heure du développement durable, il y a cette notion de durabilité de l'innovation. Pierre Tabatoni, est-ce que les innovations considérées comme positives aujourd'hui peuvent ne plus l'être à l'avenir ?
Absolument. L'innovation crée des utilités mais n'est utile que ce qui est considéré comme utile, pardonnez-moi de ce lieu commun. Une chose n'est utile que par une référence par rapport à la valeur qu'elle a. Un bien est utile parce qu'il est rare, mais il est rare parce qu'on en veut. On en veut pour des raisons qui sont psychologiques, physiologiques, mais qui sont souvent également sociales et politiques. Et c'est la raison pour laquelle un processus d'innovation, qui, je le répète, n'a de sens que s'il va jusqu'à la création des utilités, ne peut se développer que dans la mesure où il apporte du sens à son développement. Le sens, c'est une compréhension par la société, une compréhension collective, aussi bien dans l'entreprise qu'en dehors de l'entreprise, des raisons pour lesquelles on innove. Et une innovation qui n'a pas de sens, ou bien n'arrive pas à se développer, je prends un tout petit exemple. Regardez les téléphones mobiles il y a une dizaine d'années. Au Japon, enfin, moins d'une dizaine d'années. Au Japon, dès qu'il y a eu le téléphone mobile avec la photo, les Japonais se sont précipités là-dessus. En particulier les jeunes Japonais. Ça a fait un marché immense. Ça a eu immédiatement du sens. En Europe, ça a pris beaucoup plus de temps. Pourquoi ? Parce que les Européens, c'était beaucoup moins les jeunes que les adultes qui étaient visés par cette innovation, réfléchissaient, qu'est-ce que ça va vraiment m'apporter ? Est-ce qu'avoir l'Internet sur le téléphone mobile a du sens pour moi ou pas ? Et si on va alors beaucoup plus loin, si on prend par exemple les problèmes de la biotechnologie, là, les problèmes de sens sont absolument essentiels, puisque vous vous interrogez sur la valeur de l'utilité que vous créez. Est-ce que les nouveaux procédés que vous voulez utiliser sont acceptables du point de vue de la société, du point de vue moral, du point de vue social ou politique ? Donc la notion de sens, la notion qu'une utilité, que l'innovation crée une utilité qui a du sens, est une notion capitale.
Quelle différence faites-vous, Pierre Tabatoni, entre innovation et invention ?
Ah. Ben, l'invention, pour nous limiter au discours courant, l'invention concerne le domaine des idées nouvelles sur le plan scientifique et technologique. Parce que lorsqu'on parle d'innovation, on parle de l'innovation économique, et elle est en liaison directe avec ce qui est scientifique et technique. Mais vous pourriez avoir de l'innovation dans les services publics, par exemple, qui soit de nouvelles méthodes d'organiser les services publics. Ce n'est pas de l'économie, c'est la science politique ou administrative. Les progrès scientifiques et techniques peuvent les aider, mais il y a également toutes sortes d'autres considérations qui définissent des critères de transformation des services publics. Alors, si je reviens à votre question, l'invention, ce sont tous les procédés qui dégagent des idées nouvelles sur le plan scientifique, ça c'est les bases même de la science, ou de la connaissance technologique. Et l'invention, ce sont tous les procédés qui permettent de les appliquer et d'arriver à créer des utilités nouvelles que l'on appelle des produits, des services ou des modes nouveaux d'organisation.
Schumpeter a dénoncé la pseudo-innovation. Qu'est-ce qu'il entendait par là ?
Il entend par pseudo-innovation, justement, c'est pas les termes qu'il emploie, mais c'est une innovation qui n'a pas de sens. C'est une innovation qui paraît une innovation, qui est présentée comme une innovation, mais qui, par exemple, ne transforme pas de manière significative, c'est-à-dire qui est un sens, la façon dont on satisfait une utilité. Il y aurait d'autres produits, d'autres services, d'autres manières de produire des services qui donneraient la même utilité aux gens. Ils n'ont pas tellement besoin de cette chose nouvelle. Et par conséquent, c'est présenté comme une innovation, mais c'est une pseudo-innovation, et ces pseudo-innovations qui souvent peuvent aboutir à des désordres économiques, Schumpeter les rejette catégoriquement.
C'est le côté rationnel de l'innovateur, ça, le sens. C'est un mot très fort dans votre esprit, le sens.
C'est un mot très fort, et vous avez raison.
Savoir les pieds sur terre
C'est pas seulement d'avoir les pieds sur terre. Bien sûr que l'innovateur doit avoir les pieds sur terre, sinon il n'arrive pas au bout du processus. Il ne crée pas de produits et de services nouveaux. Ainsi, l'innovateur, c'est un entrepreneur. C'est un homme capable de transformer des situations pour arriver à offrir de nouvelles utilités. Mais si j'insiste tellement sur le sens, c'est parce que le sens ne se réfère pas uniquement à l'utilité directe. Le sens se réfère aux valeurs par lesquelles on apprécie la présence de ces utilités, la consommation de ces utilités, de ces produits, de ces services, par rapport à des notions beaucoup plus générales. Alors, les notions de valeur, là, vous me ramenez dans la philosophie que j'essaie toujours d'éviter.
Vous voyez, on y revient toujours.
Mais vous avez raison. Mais vous savez, la science économique s'est développée à partir de la philosophie morale. Adam Smith était un professeur de philosophie morale. Et donc, il est très difficile de parler d'innovation si l'on ignore complètement les critères qui donnent du sens à l'innovation. Et ce sont des critères qui peuvent être d'ordre social ou politique, mais qui remontent à un moment donné toujours à des critères d'ordre moral. Mais le point qu'il faut bien comprendre, dans une société où l'innovation est rapide, accélérée, et où elle touche tous les secteurs, c'est que le rythme de l'innovation, mon livre est sur le rythme de l'innovation, et pas uniquement sur l'innovation, l'accélération des innovations. Il faut bien comprendre que le rythme de l'innovation transforme la culture de la société et peut elle-même transformer les valeurs. Et ça, il faut le comprendre parce que lorsque on parle de valeurs, les philosophes ont une conception très claire, c'est toutes les bases de la philosophie. Pour l'économiste, la valeur doit être interprétée à partir, disons, de marchés, de produits, d'utilités qu'il consomme. Et par conséquent, il y a une transposition d'une idée générale de valeur qui sont des hiérarchies culturelles ou sociales, et l'idée de transposition de ces valeurs en des critères qui puissent être appréciés sur des marchés. Autrement dit, des gens peuvent être attachés à des valeurs religieuses, par exemple, ou morales et politiques, et ils se comportent sur le marché tout à fait avec d'autres types de conduites.
Et d'autres méthodes.
Et d'autres méthodes. Et alors là, c'est pas la peine que je vous décrive le système tellement il est connu. Donc, il est très important pour l'économiste de savoir comment on passe des idées générales qui sont les valeurs de type philosophique, religieux, socio-politique à ce qui est vraiment l'acte économique, c'est-à-dire la satisfaction donnée par des produits ou des services.
On parle beaucoup d'innovation aujourd'hui en politique. C'est visiblement la nouvelle source de jouvence. Il faut innover, il faut participer à la recherche et au développement. Est-ce que cette notion de sens, le politique aujourd'hui l'a réellement dans la bouche lorsqu'il parle d'innovation? Je ne citerai pas de nom, mais on a vu ces derniers mois des politiques volontaristes, que ce soit un ministre ou le premier d'entre eux, dire « il faut innover, on va faire des plans, alors on pond des rapports, il y a une commission Théodule qui décide que effectivement c'est important d'innover, etc. » Est-ce que cette notion de sens, Pierre Tabatoni, aujourd'hui, les initiateurs l'ont réellement à l'esprit?
Je crois qu'ils l'ont. Premièrement, cette notion de.
Est-ce que ce n'est pas finalement uniquement une démarche politique?
Attendez, il faut. Ça, je ne me permettais pas de répondre n'étant pas de science politique. Mais enfin, j'ai mon idée comme citoyen sur la question. Mais voyez-vous, la volonté d'innover, elle existe dans nos sociétés politiques depuis très longtemps. Vous le trouvez au 19e siècle. Les gouvernements parlaient également de la nécessité de faciliter le travail des entrepreneurs, de développer les marchés, de permettre la circulation des capitaux. Autrement dit, ce n'est pas une notion nouvelle. Ce qui est plus nouveau, surtout actuellement, puisque vous faites référence à l'actualité, c'est que cette accélération de l'innovation dont je parle dans le livre a créé toutes sortes de distorsions. Et en particulier, elle a créé un désordre qui s'appelle le chômage. Et un désordre particulier, que Keynes avait déjà très largement analysé, qui est le chômage durable. Le chômage durable est un type de désordre. Alors, il est créé par l'innovation, parce que, encore une fois, l'innovation transforme toute chose, et elle déséquilibre des situations acquises. Et par conséquent, lorsqu'il y a des produits nouveaux qui amènent à des fermetures d'entreprises ou à des délocalisations, il est évident que ça a un impact immédiat sur l'emploi. Alors, le problème est de savoir si c'est l'innovation qui a créé le désordre, ou s'il n'y a pas d'autres raisons qui expliquent que l'innovation n'ait pas été capable de compenser le désordre. Parce qu'en matière d'innovation, vous aboutissez à des fermetures d'entreprises, mais vous créez des opportunités qui créent d'autres emplois. Des auteurs récents viennent d'analyser statistiquement le problème, et ils disent que la société française, tous les jours, crée 10 000 emplois, et elle les remplace par 10 000 emplois.
Et on ne parle jamais. 10 000, on en parle jamais.
Et on ne parle jamais, lorsqu'on parle du coût de l'innovation, de toute la partie positive, c'est qu'elle est une destruction créatrice. Elle crée de nouvelles opportunités. Alors elle les crée d'autant plus que la société a les capacités, au sens général, culturel, social et politique, de s'adapter plus rapidement ou de compenser les désordres pour éviter qu'ils n'aboutissent à des blocages. On se trouve actuellement dans une situation, dans nos sociétés actuelles, la française en particulier, mais c'est à peu près partout pareil, mais dans une situation où la société, enfin la culture de la société l'amène à penser que elle ne se tirera pas de l'innovation, que l'innovation l'agresse, que l'innovation est un obstacle à sa transformation. Et de ce fait,
elle lui colle à la peau.
Elle lui colle à la peau. C'est l'image que quelle est l'image étymologique. Elle lui colle à la peau, c'est-à-dire que au lieu d'être considérée comme l'opportunité nouvelle, elle est considérée comme une agression littérale aux situations acquises et à la sécurité et aux garanties des situations acquises. Alors, quand le gouvernement vous dit il faut faire de l'innovation, mais bien sûr, il faut faire de l'innovation, mais enfin, tout le monde le dit depuis bien longtemps. Le problème, c'est d'analyser les raisons pour lesquelles une société capable d'innover techniquement et économiquement est capable en même temps de laisser ce désordre qui n'est pas acceptable dans une société, qui est un chômage durable.
C'est d'autant plus difficile de le comprendre quand on est directement touché, Pierre Tabatoni.
Bien sûr.
L'innovation, on peut la comprendre jusqu'à une certaine limite.
Oui, oui, les gens qui doivent le plus souffrir des désordres créatifs, mais qui sont quand même des désordres que crée l'innovation, résistent à l'innovation.
Et c'est un frein culturel ? Non, c'est plus que culturel.
C'est un frein culturel, social et politique. Il est culturel parce que c'est une manière de ne pas accepter l'innovation, de dire « elle est contre mes intérêts ». Je ne l'accepte pas, je vais me battre contre elle. Il est social et politique parce que ce culturel crée des communautés de pensée qui définissent des attitudes sociales et qui conditionnent des mouvements politiques.
Nous marquons une dernière pause, Pierre Tabatoni. Nous poursuivons cette conversation après, dans quelques secondes. Innovation, désordre et progrès, c'est le titre du livre dont nous parlons dans Éclairage sur Canal Académie aujourd'hui. C'est à découvrir aux éditions Economica.
Thank you.
On retrouve Édouard Rosset.
Il nous faudrait beaucoup de temps encore pour passer en revue ce très bel ouvrage Economica, tout à fait abordable, Innovation, désordre, progrès de Pierre Tabatoni. Pierre Tabatoni, membre de l'Institut, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, qui est notre invité sur Canal Académie aujourd'hui. Pierre Tabatoni, est-ce que l'on sait innover réellement en Europe aujourd'hui? Est-ce qu'on a les moyens d'innover par rapport à d'autres pays? Je pense notamment aux États-Unis, à l'Asie. Est-ce qu'on n'a pas une petite longueur de retard?
Bien sûr qu'on a des moyens d'innover. Écoutez, l'Europe est une vieille civilisation. Au point de vue scientifique et technologie de base, l'Europe n'est pas du tout en retard. Technologie de base n'est pas du tout en retard par rapport aux autres pays. En matière scientifique notamment, l'Europe est toujours en avance. Mais au point de vue d'application des connaissances et de capacité du système économique à utiliser rapidement ces connaissances, il est exact que l'Europe actuellement en retard par rapport aux États-Unis, qui est chiffré dans tous les rapports publiés par l'OECD ou l'Union européenne, ou l'Union européenne. Et ce retard, il faut que nous fassions des efforts importants pour le rattraper. Parce que si on ne le rattrape pas, nous serons perdus dans un monde qui ira plus vite que nous. Et quelqu'un aura le vertige, mais pas à l'extérieur, à l'intérieur. Donc, pour le rattraper, il faut des politiques, il faut des transformations de mentalité, il faut des modifications d'institutions.
Une volonté entrepreneuriale aussi.
Et une volonté entrepreneuriale et une compréhension du fait que l'innovation ne concerne jamais une activité ou un secteur. L'innovation, je vous l'ai dit, elle est collective. Elle affecte tous les secteurs. Elle ne peut se réaliser qu'en mobilisant de l'information, des ressources de connaissances, venant de toutes sortes de secteurs. Et lorsque la société a des difficultés à mobiliser les connaissances en les faisant circuler dans tous les secteurs, elle tombe sur des blocages d'innovation. Et à ce moment-là, on retombe sur de l'histoire, de la culture ou de la politique. Et l'économie est politique. J'ai essayé d'éviter cet aspect-là dans le livre, mais à tout moment, on rencontre ce problème de l'organisation politique d'une société.
Ça fera l'objet d'un autre ouvrage peut-être, mais l'innovation n'existerait pas sans ce que l'on appelle dans les entreprises les postes, les budgets R&D, c'est-à-dire recherche et développement. Et ceci d'ailleurs à tous les niveaux de l'entreprise. On peut dire vraiment, Pierre Tabatoni, que chaque service pourrait avoir finalement sa boîte à idées.
Absolument, vous avez tout à fait raison. Lorsqu'on parle de recherche et développement, on pense généralement uniquement à l'aspect technologique. En réalité, l'innovation se trouve absolument dans toutes les activités de l'entreprise et même de la société. Il suffit qu'il y ait des esprits créateurs, que ces esprits créateurs soient entendus et que ce qu'ils proposent, on en tienne compte et qu'on s'organise pour essayer d'en tenir compte. Donc, l'innovation n'est pas uniquement technologique. Elle affecte l'ensemble des fonctions de la société et, comme on dit maintenant, elle affecte l'ensemble de la genèse et de la redistribution des connaissances de la société.
En tout cas, on comprend bien le trio qui s'impose, le trio gagnant, innovation, productivité et croissance, avec la casse éventuellement que nous avons évoquée tout à l'heure, mais qui est inéluctable. Pour bien comprendre la construction de, je ne vais pas dire votre théorie, mais de votre raisonnement, Pierre Tabatoni, le chapitrage de votre livre est très très important. Encore une fois, un ouvrage tout à fait abordable, qui se veut à la fois philosophique, mais surtout d'économie, d'organisation, de gestion. Vous avez compris quatre parties dans cet ouvrage. Il y a processus, les rythmes, l'organisation et l'appropriation, c'est cela?
Bon, alors, c'est un sujet immense et comme je voulais pouvoir me référer à la pensée des personnes qui ont eu une réflexion scientifique et approfondie sur le sujet, c'est la raison pour laquelle je fais beaucoup de citations, je n'ai pas voulu prendre un plan trop compliqué. Donc j'ai pris un plan brutal. Un plan brutal, mais qui permet, dans mon esprit, d'aller quand même au fond des choses. D'abord, il faut parler de processus. L'innovation, c'est pas une étape, c'est pas un point à un moment donné. C'est un processus complexe qui se développe depuis une idée scientifique ou technique nouvelle jusqu'à la satisfaction des personnages, des personnes dans la société. Bon. Par conséquent, dans cette partie processus, j'essaie d'introduire toutes les caractéristiques de ce qu'est l'innovation et d'éviter un certain nombre d'idées fausses sur le phénomène d'innovation. Je prends ensuite le terme de rythme, le chapitre du rythme. Pourquoi ? Parce que L'innovation est par définition un changement de rythme, puisqu'elle conteste une situation et un ordre établi, donc elle crée un autre rythme, et tout le livre est inspiré par l'idée qui me paraît la plus forte dans la société actuelle et dans l'innovation de nos sociétés actuelles, c'est l'accélération de l'innovation. Les mathématiciens utiliseraient des dérivés pour cela, on ne le fera pas. L'accélération, c'est-à-dire les innovations sont de plus en plus rapides. Les produits créés durent de moins en moins longtemps. La compétition que crée l'innovation est la base même de la compétition. Les innovations sont de plus en plus interdépendantes. Une innovation dans un secteur ne peut se réaliser que si elle utilise les innovations dans d'autres secteurs. Les effets et l'impact des innovations sur les sociétés sont de plus en plus intersectoriels. Vous touchez un secteur, ça entraîne toutes sortes d'autres secteurs. Et en réalité, et c'est quand même le point important, lorsqu'il y a un rythme accéléré d'innovation, la société est surprise par ces innovations elles-mêmes. La société peut ne pas s'estimer capable de suivre le rythme. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pensé qu'il fallait insister sur ce rythme et voir comment elle affecte la croissance de l'économie. La troisième idée et la quatrième idée, c'est que l'innovation comporte des éléments rationnels, c'est-à-dire de l'organisation. Après, je vous parlerai de la dernière partie. L'organisation est absolument essentielle dans l'innovation. Le problème est que l'organisation doit être conçue pour favoriser l'innovation, pour inciter à l'innovation et non pas pour la bloquer. Donc il y a toutes sortes de développements, de raisonnements modernes, d'expériences modernes surtout, d'entreprises, mais également d'autres organismes que des entreprises, des organismes non marchands notamment, qui s'efforcent de s'organiser pour que la créativité soit utilisée. Et là, il y a toute une partie dans laquelle on démontre, le terme est un peu fort, mais dans laquelle il est évident pour ceux qui s'intéressent au sujet que l'innovation économique ne peut pas se développer s'il n'y a pas d'innovation dans l'organisation. Et vous avez le terme qui revient souvent d'innovation organisationnelle, c'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. Vous ne pouvez pas faire des choses nouvelles dans une organisation existante. Et par exemple, je cite toujours le cas, lorsque il y a une dizaine d'années, les innovations technologiques de l'information ont poussé les entreprises à renouveler complètement leur système d'information par les ordinateurs, les logiciels et tout ça. On s'est rendu compte assez rapidement, au bout d'une dizaine d'années, que bien souvent, elles s'étaient arrêtées en route. C'est-à-dire, elles étaient suréquipées en moyens d'information, mais elles n'avaient pas restructuré les rôles, les compétences, les responsabilités, l'accès à l'information, la distribution de l'information.
C'est du management stratégique.
Ça, c'est le management stratégique. Alors, la dernière partie, c'est sur l'appropriation. Pourquoi ? Parce que c'est un des paradoxes de l'innovation. Vous savez que je reviens constamment sur l'idée que l'innovation est un processus complexe et paradoxal. Pour que le risque de l'innovation soit pris, il faut une certaine protection de l'innovation. C'est ce qu'on appelle l'appropriation de l'innovation. Les gens qui ont des idées, qui s'engagent, qui engagent leurs capitaux, leurs relations, leur prestige, leur vie dans une innovation qui est forte, sont des gens qui ne peuvent pas simplement jeter en pâture à toute la société immédiatement l'ensemble de ce qu'ils ont trouvé. Alors ça prend la forme classique des brevets, des licences, etc. Mais ça prend également la forme de toutes les stratégies économiques qui permettent à une entreprise d'arriver sur un marché et pendant un certain temps d'éviter que la concurrence ne détruise le fruit de son innovation. Et c'est tout le problème de l'appropriation qui est un problème clé de la société moderne et qui soulève aussi beaucoup de débats.
Merci infiniment, nous pourrions parler de ce sujet encore pendant des heures. Pierre Tabatoni, ça fera l'objet d'autres livres et d'autres émissions sur Canal Académie. Merci infiniment de nous avoir livré votre témoignage. Pierre Tabatoni, aux éditions Economica, le titre du livre « Innovation, désordre et progrès ». Merci monsieur, à très bientôt.
Merci bien.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.